France Culture.
Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Hier, lors du deuxième épisode de cette série À Voix Nue, on a parlé de votre apprentissage auprès de Monsieur Ducasse au Louis XV à Monaco, de votre retour à Villeneuve-de-Marsan, au restaurant de votre père, et de ce départ pour Paris. Vous avez coupé les ponts ou...
J'ai plutôt coupé le cordon.
Coupé le cordon,
voilà.
Ponts, pardon.
Non,
j'ai
pas
coupé. Expression.
Ouais.
Vous êtes venu vivre à Paris et vous avez ouvert votre restaurant qui portait votre nom à l'époque, Hélène Darroze, qui aujourd'hui s'appelle Marsan, qui aujourd'hui a 2 étoiles au Michelin. Ce que vous avez commencé à dire hier, c'est que le succès finalement est arrivé assez vite, même si c'était pas évident d'être seul, de se lancer dans une aventure, d'être loin de chez soi. Il y a quand même eu un engouement très vite autour de vous.
Oui, oui, oui.
Médiatique, notamment.
Oui, voilà, c'est ça. Déjà, il y a eu la presse qui, enfin, les médias qui ont sauté sur l'occasion, on va dire, hein, parce que voilà.
Il y avait très peu de femmes.
Voilà, il y avait eu Guylaine Arabian, mais qui était plus dans la gastronomie, qui était plus chez le doyen à cette époque-là déjà. Et donc, moi, je suis arrivée, il n'y avait personne, quoi. Donc,
vous êtes un sujet pour la presse, un bon sujet, quoi.
Et oui, oui, oui.
Comme vous me disiez hier.
Oui, voilà, c'est ça. Je suis jeune. On a souvent dit, ouais, voilà, t'étais une femme, etc. Donc, bon, j'espère aussi que je faisais pas trop mal la cuisine, quoi. Parce que je pense que si, on m'aurait pas fait de cadeau si ça avait pas été bon, voilà. Mais c'est des années qui sont difficiles. Enfin, difficiles. Quand j'y repense, j'ai l'impression d'être dans une espèce de tambour de machine à laver. C'est très excitant, c'est juste incroyable parce que bah, quand j'attendais les clients à Villeneuve-de-Marsan, là, ils sont là, on ne sait pas où les mettre, etc. Et la bêtise d'ailleurs, c'est que peut-être j'en ai pris trop parce que, à cette époque-là, parce que, comme je vous dis, j'avais tellement investi d'argent personnel et à travers les banques, etc., que ben oui, je n'allais pas mettre les gens dehors, quoi. J'avais quand même cette peur du lendemain, quoi. Donc voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de travail pour mes équipes, pour moi, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, et en même temps, c'est très euphorisant, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est ce qui m'arrive.
Et ce qui vous arrive aussi, c'est votre première étoile qui arrive très vite en 2001.
Ouais, ouais, ouais. Elle arrive en 2000. On ouvre en 99, elle arrive quelques mois après. Je sais que dans Wikipédia, il y a marqué 2001, mais ils ont fait une faute. Elle arrive tout de suite.
Donc encore plus vite.
Et je me souviens exactement. En plus, je me souviens, on a ouvert un 14 octobre. Ça, j'ai la date dans la tête. On a ouvert un 14 octobre. On n'aurait jamais dû ouvrir, mais il y avait un grand repas. Il y avait quelqu'un qui voulait absolument faire un lancement de presse. Voilà, mais les toilettes ne marchaient pas. On a quand même ouvert avec les toilettes qui ne marchaient pas parce qu'on n'était pas prêts, mais il fallait ouvrir parce qu'on s'était engagé avec ce client-là et qui invitait tous les journalistes de... Alors, ils étaient tous là, dès le premier jour, tous les journalistes de la food, quoi, parce que c'était pour un produit alimentaire, c'était pour du foie gras. On dirait pas la marque, mais en tous les cas, c'était pour du foie gras et qui lançait des nouveaux produits, qui avait même accepté... Moi, j'avais dit, je veux bien faire... ça, mais moi, je ne cuisine qu'un seul foie gras, c'est celui de mon producteur. Et si vous voulez que j'y aie du foie gras, voilà, ce sera celui de mon producteur et pas le vôtre. Ils avaient dit OK. Ils voulaient tellement ouvrir chez nous que voilà. Et donc, ça, on a ouvert le 14 octobre et le 14 novembre. Mais un mois après, je me souviens, c'était un service du midi. J'étais dans mes cuisines, j'avais un tablier dégueulasse parce que j'avais fait du poisson le matin et j'avais plein de sang et j'avais pas eu le temps d'aller me changer. Donc j'avais levé les poissons et mon tablier était dégoûtant. Et à la fin du service, enfin c'est pas tout à fait fini, mais en tous les cas, une personne de la salle vient me chercher. Il me dit, écoutez, il y a deux messieurs là qui sont là à l'entrée, qui ont déjeuné là, qui veulent vous voir. Je dis, ah non, non, moi je sors pas comme ça dans le restaurant, faites-les entrer en cuisine. Il va les chercher, il revient, il me dit non, ils veulent pas rentrer et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut que vous sortiez. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, et je sors et je me trouve nez à nez avec le directeur du Michelin, qui s'appelait Monsieur Négelin à l'époque, que je connaissais puisque j'étais allée présenter mon dossier. Enfin, je l'avais rencontré à 2 ou 3 reprises. Et donc là, quand je l'ai vu, je me suis, avec mon tablier dégoûtant et tout, voilà, je dormais presque pas la nuit parce que je me couchais tard, je renvoyais les gens, donc je faisais la planche, je finissais la planche et puis le matin j'étais là dès le départ pour pas qu'ils arrivent trop tôt, donc c'était un truc de malade. Et je me suis pris la tête comme ça, j'ai dit, oh pétard. Non, j'ai pas dit pétard, j'ai dit pire. J'ai dit, oh, c'est, enfin voilà, c'est pas vous, quoi. J'ai dit,
et. Donc, il venait vous annoncer la bonne nouvelle?
Non, pas du tout. Il venait m'inspecter.
Ah, d'accord. Parce que je pensais que l'inspection se faisait un peu en secret.
Ah, bah, là, en tout cas, elle a oui. Mais il avait déjà mangé.
D'accord.
Donc, il avait payé et tout. Donc, là, il se présentait, quoi.
D'accord.
Voilà.
Après le repas.
Voilà. Ils étaient deux et je dis, mais c'est pas possible, quoi. J'étais, pouf, là.
Je suis pas prête.
Et j'étais, voilà. Et donc, moi, je lui dis, bah, écoutez, je suis désolée, voilà, Il me dit, mais non, on discute un peu. Et pour tout vous dire, deux jours avant, était venu Monsieur Ducasse, et Monsieur Ducasse avait beaucoup aimé, mais le lendemain, il m'avait dit, attention, il faut être un peu plus parisien, vous êtes un peu trop forte sur les goûts, etc. Et je dis, voilà. Il m'avait un peu perturbée, parce que moi, je cuisinais ce que j'aimais, et donc, sans dire que c'était Monsieur Ducasse, parce que je dis à Monsieur Neigelin, je dis mais bon, on m'a donné le conseil quand même de me. Il me dit ne changez rien, ne changez rien. Bon, je me dis ça va. Et puis il me dit il faut qu'on se dépêche si vous voulez être dans le prochain guide. Demain, je vous envoie ce monsieur qui est avec moi. À quelle heure il peut venir pour qu'on remplisse vite le questionnaire. Je me dis mais c'est pas possible. Il m'envoie un inspecteur pour remplir le questionnaire du guide. Et j'ai dit, bah, écoutez, moi, s'il faut venir, il faut venir tôt, parce qu'après, je travaille, quoi. À 8h le matin, il y avait l'inspecteur qui me faisait remplir le guide. On a rempli ensemble. Et puis, il est reparti, et j'appelle papa, parce que papa, il attendait, comment ça s'est passé et tout. J'ai gardé longtemps, d'ailleurs, la commande de cette table-là.
Donc, vous vous rappelez de ce qu'il y avait à la carte ce jour-là?
Oh, je me souviens plus. C'est sûr qu'il y avait de la palombe, parce que Monsieur Ducasse, deux jours avant, avait mangé de la palombe. Et alors, papa me dit, est-ce qu'il t'a demandé les spécialités? Parce que quand on avait une étoile au Michelin, il fallait donner les spécialités qui étaient marquées dans le truc. Et il m'avait pas demandé les spécialités.
Alors, signe.
Alors, j'ai dit, ben non. Et alors là, le monde qui s'écroule, quoi. C'est foutu. Et dans l'après-midi, l'inspecteur appelle en disant, on a oublié de parler des spécialités. Alors, je me dis, bon, il y a encore un petit espoir. Et dans quelques mois après, il y avait la première étoile. Voilà.
Et vous étiez la première femme chef étoilée de France ou pas?
Non, pas du tout. Il y avait Guylaine Arabian, elle avait eu deux étoiles avant.
Anne-Sophie Pic était là aussi.
Non, Anne-Sophie Pic, elle est arrivée un peu plus tard que moi. Anne-Sophie, elle est arrivée très vite après, mais elle est arrivée un peu plus tard. Non, mais il y a eu la mère Brasier,
Les mères lyonnaises.
Voilà. Mais il y avait Guylaine Arabian juste avant moi, mais qui avait arrêté chez le doyen et qui, je sais plus ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais elle était pas étoilée, non. Mais c'est joué, ouais. Après, je pense que j'étais pas la seule étoilée à ce moment-là quand même, je sais pas, je me souviens pas.
Et en tout cas, la deuxième étoile est arrivée assez vite.
Et la deuxième étoile est arrivée 3 ans après. Ouais. Voilà, 3 ans après.
3 ans.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et là, c'est papa qui a appris la deuxième étoile parce que moi, j'étais à New York. Je faisais un dîner à New York avec mon amie Ariane Daguin. Et donc, j'avais demandé à papa, parce qu'à l'époque, j'avais personne de confiance qui pouvait garder la maison, qui pouvait prendre une décision s'il y avait un problème ou quoi. Donc, j'avais demandé à papa d'être là, dans le bureau. Il n'était pas en cuisine, mais il était dans le bureau au cas où il y aurait eu quelque chose, une décision à prendre ou quoi. Et c'est lui qui a reçu le coup de fil en disant qu'il y avait la deuxième étoile. Donc, il m'a appelé en pleine nuit. Il était en pleurs, papa. Mais il pleurait. Mais vraiment, je pensais qu'une chose très grave était arrivée. Je pensais qu'il y avait eu un malheur, quoi, parce qu'il pouvait pas parler. Puis tout d'un coup, il dit « Ma fille, t'as eu la deuxième étoile
». Vos parents quand même assisté à votre succès.
Oui. La deuxième étoile, les trois premières années, papa, il m'a pas fait de cadeau. Il était très attention. Mais après une fois la deuxième étoile, ça a été. Il s'est dit waouh, elle l'a fait quoi. Voilà. Et après, quand il y a eu la troisième étoile, hélas, il était malade. Et alors, il l'a entendu. Il a parce que quand je lui ai annoncé qu'il
ça, était... c'était pour votre établissement de Londres.
Voilà, c'est ça.
On parlera peut-être après.
Ouais. Il a dit ah ouais, t'as la troisième étoile. Il a dit bon ben là, le plus dur commence. Il m'a dit. mais après, il l'avait oublié. Il a pas vraiment réalisé que j'ai eu 3 étoiles un jour.
Personne d'autre dans votre famille n'avait eu 3 étoiles.
Non, personne.
On va revenir, enfin, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette image du tablier. Vous avez dit que, voilà, ce jour où vous avez reçu l'inspecteur du Michelin, votre tablier, il portait les traces vraiment de la cuisine, de la découpe du poisson. Je crois que pour vous, enfiler votre tablier, c'est quelque chose d'important. C'est l'habit de l'artiste, de l'artisan, de l'artisane. Et c'est comme presque la tenue du matador. Enfin, il y a quelque chose de très physique et très rituel.
Oui. Oui, enfin oui, je pense que pour tout cuisinier, de nouer le tablier, c'est un moment important, quoi. C'est, je sais pas si c'est particulier à moi, mais c'est vrai que le tablier fait vraiment partie de la tenue et c'est un élément de travail, c'est clair. Et à l'époque, moi, j'avais aussi, je portais une toque, une espèce de toque à l'italienne. C'était un peu ma marque de reconnaissance aussi. Un jour, voilà.
Vous avez plus la toque, vous avez.
Et non, parce que je les ai perdues une par une. La dernière, elle a été perdue aux Connotes et j'ai jamais retrouvé les mêmes modèles. Et puis voilà, on a laissé tomber la toque. Voilà.
On vous voit effectivement sur certaines photos
avec
la toque
ouais,
au début des années 2000.
Ouais.
Vous avez dit aussi, je crois, que vous pensiez au départ n'avoir finalement qu'un seul restaurant. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement étendu votre présence?
C'est des rencontres et des concours, voilà, c'est des occasions, des opportunités qui se présentent. Le Connaught, en tout cas, c'est...
Le Connaught, c'est un palace de Londres, ouais. Vénérable.
Ah bah oui, c'est une institution. C'est là où le général de Gaulle est quand même a habité au début de... Enfin, pendant la guerre, ah, quoi.
Ouais.
Quand il est arrivé à Londres, après, il est allé ailleurs, mais il avait son bureau toujours au Connaught. Et c'est vraiment une institution londonienne. Et un jour, en effet, c'est un coup de fil juste avant le service. Le service allait commencer.
Ici, à Paris, donc vous
êtes. Ici, à Paris, bah oui, oui, ici. Je suis à Paris, ici. Je viens juste d'avoir ma petite fille. La première, Charlotte. Et coup de téléphone, c'est Isabelle Adjani qui était une cliente très régulière du restaurant. Et Isabelle Adjani qui me dit, écoutez Hélène, hier soir je dînais avec le propriétaire du Connaught et ils sont en rénovation et ils cherchent un chef et votre nom est tombé sur la table et j'ai appris plus tard que c'était elle qui avait quand même suggéré le nom et il aimerait bien vous parler. Est-ce que ça, si ça vous intéresse pas, on raccroche tout de suite et c'est pas un problème. Moi, c'est vrai que j'étais dans cette idée, je venais d'être maman, j'étais dans cette idée que j'avais qu'un seul restaurant. Bon, j'ai dit, écoutez, on peut toujours discuter, quoi. Et on peut toujours en parler, quoi. On peut toujours. Donc, j'accepte de rencontrer. Puis voilà, on se rencontre. Et puis, on me dit, il faut venir voir ce à quoi ça ressemble, le Connaught. Et puis, j'arrive là-bas, au Connaught, et c'était en plein mois de novembre. Londres est sous un soleil et un ciel bleu, mais incroyable, incroyable. Et le Connaught, lui, il est tout drapé de... Comme il est en travaux, il y a plein de...
Il est bâché, quoi.
Ouais, voilà, il est tout bâché pour les travaux, pour refaire la façade, etc. On me fait mettre un casque, des bottes de chantier, je m'en souviens toujours. Et puis je rentre par une porte dérobée, parce que l'entrée principale était condamnée. Et je me retrouve rapidement dans cette entrée du Connaught, et là, waouh, quoi. Déjà, j'étais tombée, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée à Londres, et j'étais tombée sous le charme de Londres, avec une énergie incroyable, voilà, avec ce ciel bleu et ce soleil. Mayfair, bon, c'est Mayfair,
c'est quand même
Mayfair,
quoi. Un des plus beaux quartiers de Londres.
Voilà, c'est ça. Et voilà, pof, je me retrouve dans ce lobby très particulier. Il y a un escalier dans le Connaught qui est classé. Beaucoup de choses sont classées dans le Connaught. Et cet escalier est magnifique et classé. C'est Ralph Lauren qui l'a fait dupliquer, avait demandé la permission de le faire dupliquer dans sa boutique de Madison Avenue à New York. Et là, un espèce de je sais pas, d'espèce de coup de foudre, quoi, de... Pof, il y a un truc qui se passe en moi qui est juste incroyable, quoi. Voilà. Mais ça n'empêche qu'au départ, j'ai dit non. Au départ, j'ai dit non. Ouais, ouais.
Parce qu'on peut avoir le coup de foudre pour un bâtiment, mais c'est quand même
C'était un projet de dingue, parce qu'à l'époque, je ne suis pas que en charge du restaurant gastronomique, comme aujourd'hui. Je suis en charge de toute la restauration du Connaught. C'est-à-dire que je m'occupe de l'autre restaurant, je m'occupe des banquets, je m'occupe des bars, je m'occupe de tout.
À tel point que vous allez déménager à Londres, à un moment.
Oui,
où vous allez
alors, d'abord, je dis non. Je me souviens à fin décembre, juste avant Noël. Je dis, c'est pas possible. C'est pas pour moi. J'y arrive pas. Enfin, voilà, j'appelle la personne avec qui j'étais en contact. Je tombe sur son répondeur pour lui dire non. Je tombe sur son répondeur et comme j'avais quand même un peu la pétoche de dire non, quoi, hein, parce qu'on avait quand même pas mal discuté, je lui laisse un message sur le répondeur. Je dors pas de la nuit parce que toute la nuit je me dis, mais est-ce que t'as pris la bonne décision, quoi? Est-ce que t'as pas fait la plus grosse bêtise de ta vie, quoi, quand même? Parce que... Et le lendemain matin, il me rappelle, il m'a dit, vous pouvez pas me dire non, c'est pas possible, vous pouvez pas me dire non. J'ai goûté. Là, c'est Noël. C'est mon premier Noël avec ma petite fille. Laissez-moi passer Noël. Après, c'est son baptême. Début janvier, c'était son baptême. Laissez-moi passer le baptême. Je serai le 7 à Paris. On se reparle le 7 à Paris. Le 7 au matin. Broum, alors, si quand même, je lui dis, mais je veux pas entendre parler de vous pendant ce temps-là. Je veux pas, je veux faire le vide. Je veux pas entendre parler de vous. Alors, si quand même, j'ai reçu Joyeux Noël. J'ai quand même reçu Bonne année.
Il y avait un désir quand même très fort.
Oui, et puis après, le 7 au matin, j'ai dit, OK, allez, on va trouver une solution. D'accord. Voilà. Et en effet, c'était juste après l'anniversaire de ma fille, juste après ses 1 an, je pars avec ma fille sous le bras, enfin papa et maman m'accompagnent pour le coup, et je déménage à Londres. Enfin, je déménage. Oui, au départ, j'y passe beaucoup de temps. Mmh. Au départ, j'y passe beaucoup de temps pour lancer le truc, et après, je fais une semaine. J'ai, tant que mes petites filles sont pas scolarisées, parce qu'après, très vite, j'ai quand même ma deuxième fille.
Pourquoi vous décidez d'être à Londres plutôt qu'à Paris, alors?
Ben, parce que, quand il a fallu que je scolarise ma petite fille, moi j'ai beaucoup aimé Londres. Je le cache pas, j'ai beaucoup aimé Londres et bon, je suis revenue à Paris parce que j'aime aussi beaucoup Paris. Et d'ailleurs j'ai peut-être beaucoup aimé Londres parce que je revenais très régulièrement à Paris aussi. Hein, j'en sais rien, mais et je dis pas que un jour je reviendrai pas sur Londres. Hein, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, à ce moment-là, j'ai choisi de scolariser mes filles à l'école anglaise. Et puis après, quelques années après, j'ai choisi de revenir sur Paris parce que j'en ai pris le besoin à ce moment-là. Bon, moi, je suis quelqu'un qui marche avec son instinct. Hein.
Bien sûr. Le Connaught, dans cet hôtel de Londres, il y a aujourd'hui un restaurant gastronomique 3 étoiles. Mm-hmm. Ça fait 2 étoiles à Marsan, 3 étoiles au Connaught. Restons un peu sur le Connaught. Comment on fait finalement pour construire une aventure gastronomique dans un palace, pour obtenir des étoiles là-bas, tout en gardant un restaurant à Paris? On construit des recettes.
On travaille beaucoup. On travaille énormément. Ça, je vais pas vous raconter l'histoire. Hein. On travaille énormément. C'est pas des sacrifices, mais il y a certains choix à faire. Hein. J'avais certainement une vie sociale beaucoup plus importante et riche quand j'avais qu'un seul restaurant, qu'aujourd'hui où j'en ai plusieurs et voilà. Et on travaille beaucoup, mais surtout après on construit des équipes et on transmet quoi. Hein. Voilà.
Donc c'est vous qui créez les recettes et après vous déléguez, ce sont eux qui exécutent. Vous avez encore.
Alors c'est moi qui pense les. Ouais, c'est moi qui ai les premières idées, qui met ça sur un papier, qui dessine parfois et.
Ah, on dessine aussi.
Ouais, ça peut m'arriver. D'accord. Ça dépend avec qui, mais enfin, il y a certains de mes collaborateurs qui en ont besoin, donc voilà, ça peut m'arriver. Et puis après, je partage ces idées et on les fait évoluer avec ceux qui m'entourent. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs. Qui sont là depuis à Londres, mon chef exécutif, il est là depuis 12 ans. Kirk, mon chef, celui qui supervise un peu tout, qui regarde les pâtisseries de tous les restaurants, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. J'ai quand même une certaine loyauté de mes équipes et voilà. Et puis
certains sont partis ouvrir des bons restaurants aussi, ont été formés par vous parce que finalement vous avez formé pas mal de monde aussi au fil du temps.
Oui. Enfin, je sais pas si je les ai formés, mais en tous les cas, ils ont passé du temps chez moi. Et après, il y en a. Après, voilà, avoir 3 étoiles, c'est pas un accomplissement personnel, c'est un accomplissement d'équipe. C'est pas.
Mais j'ai l'impression que le jour où vous avez reçu votre 3e étoile, c'était quand même quelque chose pour vous.
Ah oui, bah moi, ça a été la plus forte émotion de ma vie professionnelle. Il y a des images parce que, en fait, c'était pendant les périodes le déconfinement. Je sais plus à quel moment exactement, mais. On était encore dans un confinement, je pense que c'était quand même la fin, mais bon, on y était. Et donc, il n'y a pas eu de cérémonie. On est venu me le remettre et le filmer pour que ça passe. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais on est venu me le remettre à Marsan. On est venu en me faisant croire qu'ils avaient besoin d'une interview parce que il se trouve que parce qu'à un moment entre temps j'ai perdu ma 2e étoile à Paris.
On pourra en reparler aussi.
Voilà, on en reparlera certainement. Et donc je l'ai rattrapé une semaine avant d'avoir j'ai eu la 2e étoile et une semaine après on m'a annoncé que j'avais la 3e étoile.
D'accord.
Je suis passée de 1 à 2 et de 2 à 3. Enfin c'est des sauts incroyables quoi.
Émotionnel.
Ouais, voilà et. Quand bon, il me fait parler de ce que ça fait, ben, puisqu'il voilà la raison c'était voilà racontez-nous ce que ça fait d'avoir eu la 2e étoile la semaine dernière etc et comment et voilà il me dit je voudrais aussi que vous parliez de comment vous travaillez à Londres etc avec la collaboration avec vos collaborateurs etc bon ok et puis tout d'un coup il prend la boîte et puis il ouvre et puis il y a la veste hein, avec les 3 étoiles quoi et donc là c'est un truc Je peux pas parler. Et il m'a fallu, j'en ai encore là l'émotion quand j'en parle. Il m'a fallu 3-4 semaines pour. Mais il faut juste s'imaginer que moi j'ai quand même été élevée dans une famille où on me parlait de ces chefs 3 étoiles comme des dieux, quoi. Et un jour on passe le cap, on monte la marche et donc pour moi c'était voilà.
Quelle est la différence entre un restaurant 2 étoiles et un restaurant 3 étoiles? Qu'est-ce qui fait cette différence entre le Marsan et le Connaught?
J'en sais rien. Je sais pas. Bah, le Connaught, c'est une grosse machine. Hein. Le Connaught, les équipes ont été beaucoup plus stables, ça c'est sûr. Parce que c'est le Connaught et qu'il y a des moyens en ressources humaines que j'ai pas à Marsan et les régularités pour un 3 étoiles. Enfin voilà, il y a la qualité bien sûr, l'excellence, mais il faut que ce soit toujours l'excellence, toujours la régularité. Et ça à Marsan, on l'a peut-être pas que quand je vois aujourd'hui les notations de. Je trouve qu'on est assez régulier. Je sais pas, j'en sais rien. Pour moi, les deux expériences sont différentes, très différentes. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce qui se passe à Marsan. Marsan restera la maison mère.
Mmh. Marsan, vous le disiez, a perdu une étoile à un moment donné. Mmh. Vous avez dit, je crois, c'est peut-être que vous étiez peut-être trop occupé à d'autres projets. Ou qu'est-ce qui explique finalement la perte d'une étoile et ensuite le fait qu'on la regagne? C'est un peu aussi à la main des inspecteurs.
On
contrôle pas.
J'ai pas trop eu d'explications sur la perte de la deuxième étoile, mais c'était au moment où je suis partie à Londres, donc sans doute. Que oui, il y a peut-être eu un moment de flottement et de voilà, c'était une maison aussi qui avait besoin de rénovation, qui voilà, donc il y a plein de choses et de toute façon moi comme je dis hein, j'ai jamais contesté, j'ai jamais parce que de toute façon on accepte quand on nous les donne avec voilà, il faut accepter quand on nous les retire et on fait confiance quand on nous les donne, il faut faire confiance quand on nous la retire, sinon c'est pas voilà, c'est pas le jeu. Enfin voilà,
à la différence de certains chefs qui le vivent plus comme un psychodrame.
Ouais. Mmh. Après c'est douloureux hein, attention hein, c'est douloureux hein, c'est pas anodin hein, quand on nous retire une étoile, c'est très douloureux.
Hélène Darroze, on peut dire aussi que vous êtes une chef au sens culinaire mais aussi une chef d'entreprise. Et même d'entreprise au pluriel, vous êtes lancé dans l'aventure d'un deuxième restaurant, le Connaught à Londres, et vous avez ouvert d'autres établissements. Vous avez à la Villa Lacoste, dans le sud de la France, dans un très bel endroit que j'ai visité il y a 2 ans, un jardin de sculpture. Vous avez un restaurant étoilé. Vous avez un restaurant qui s'appelle le Gioia à Paris, qui est la Joie en Gascon, qui est un restaurant bistronomique accessible.
En Bernay.
Ouais. C'est vrai que je ne sais même pas si le gascon est une langue ou un dialecte.
Il y a du patois gascon, oui, ça, oui.
Et vous avez aussi un établissement pour les événements à Paris, la table Michaudière, je crois. Et également 2 tables au sein d'un même hôtel à Marrakech. La Grande Brasserie et la Grande Table Marocaine au Royal Mansour à Marrakech. Ça fait 7 établissements. Il y a cette dimension de femme d'affaires, de chef d'entreprise, et il y a des projets que vous avez lancés et des restaurants que vous avez ouverts et qui ont finalement fermé. Donc c'est ça aussi la vie d'une entreprise. On lance des projets, certains marchent, d'autres moins.
Voilà, c'est
vous avez changé d'échelle, là. On est en 2010-2015, c'est
ouais.
200 salariés...
C'est 200 collaborateurs qui travaillent avec moi. Ils sont pas tous mes salariés puisque dans certains des restaurants, je ne suis que consultante. Ils m'appartiennent pas. Et donc, c'est pas moi qui les emploie, mais j'ai 250 collaborateurs. Oui, on devient chef d'entreprise et on réussit, on se plante. Et ça m'est arrivé de me planter. Alors, j'aimais bien. C'était Nicolas Sarkozy, là, que je suis tombée sur, qui disait, non, on se plante jamais. Ou on réussit, ou on apprend. Et je crois que il a tout à fait raison, quoi. C'est vrai qu'on sur le coup on prend ça comme des échecs, mais en fait c'est aussi des belles leçons, quoi. Et moi je suis arrivée à une maturité, je pense, où je me dis qu'il y a toujours un mal pour un bien, et il y a toujours un échec pour comprendre quelque chose, et on s'en relève et on repart. Et c'est pas pour ça que ça nous empêche de continuer à entreprendre. C'est le lot du chef d'entreprise, je pense, d'avoir des bons moments et d'en avoir des plus mauvais. Et voilà, je les ai acceptés et je me suis remis en question et j'ai remotivé les équipes et on repart sur d'autres choses et c'est bien comme ça.
Je cite quand même les deux établissements qui ont fermé. C'était à Moscou, vous aviez un restaurant.
Ah oui, alors ça, Moscou. Alors ça c'était pas à moi. Ouais. Bon, ça, c'est ouais. Alors ça, j'y suis pas pour grand chose de cette fermeture-là. C'était là. Je suis d'avoir fait le mauvais choix, le mauvais partenariat, quoi. Voilà, c'est ça. C'est mais voilà.
Et à Paris, le Toustem.
Le Toustem qui était mon premier bistrot. Hein. Alors ça, c'était juste avant le Connaught. On a ouvert ça. J'ai ouvert ça juste avant le Connaught et juste avant l'arrivée de ma petite fille. Je crois que le bébé, plus le Connaught, et bon, ben, le troisième chose qui était le bistrot, je crois que c'était un peu trop à ce moment-là, quoi. Bon, c'était de l'inconscience. Voilà.
Hélène Darroze, est-ce que vous cuisinez toujours dans vos restaurants, vous-même en personne?
Alors ça, je vous dis la vérité, très rarement. C'est pas moi qui cuisine dans les restaurants. Il faut que les restaurants, ils marchent. Quand je suis pas là, il faut que ce soit la même chose que quand je. C'était Paul Bocuse qui disait qui c'est qui cuisine quand vous êtes pas là, parce que c'est beaucoup moins bien. C'est exactement les mêmes qui cuisinent que quand je suis là. Ben moi c'est la même chose. Alors moi je passe beaucoup de temps dans les cuisines encore. Hein, je notamment les moments du service, ce qu'on appelle le pass, hein, où je suis celle qui organise un peu le service. On appelle ça faire marcher les tables, les plats, etc. Voilà. Donc ça j'ai encore ce rôle-là. Là, surtout à Marsan d'ailleurs, mais j'ai encore ce rôle-là. Et puis je suis là à zioter, à faire rectifier des petites choses, etc. C'est simple. À Londres, par exemple, à Paris moins, mais pourtant c'est la même chose. Mais à Londres, tous mes collègues, quand je les croise, ils me disent mais tu viens jamais nous voir, mais quand t'es à Londres, viens, etc. Ben non, quand je suis à Londres, je suis avec mes équipes, je suis dans mon restaurant, comme quand je suis à Paris. À Paris, on me dit tu travailles encore, tu fais encore les service le samedi soir, toi ? Je dis, ben ouais, je fais les services le samedi soir. D'abord parce que j'aime ça, parce que ça me rend encore heureuse. Et puis ensuite, parce que j'ai besoin de passer du temps avec mes équipes, quoi. J'ai besoin de partager avec eux, j'ai besoin de corriger quand il y a des choses à corriger, j'ai besoin de montrer des petits trucs quand il y a des petits trucs à montrer. Mais maintenant, vous dire que je suis derrière une poêle ou une casserole, non, je goûte, bien sûr, quand il faut goûter de temps en temps, mais non, je ne cuisine plus dans mes restaurants, non.
Et c'est pour ça recettes. Vous créez des recettes.
Par contre, oui, au moment de la création, je suis toujours là. Voilà. Voilà. Ça, c'est sûr.
Merci, Hélène Darroze, pour votre créativité. On se retrouve demain. On parlera d'être une femme dans cet univers de la cuisine, de vos grands-mères, des femmes qui vous ont inspiré, peut-être de vos filles. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Hélène Darroze, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Hervé Dubreuil, chargée de programme À Voix Nue, Daphné Abgraal. Une série de Julien Teff disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.